RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see how we go to fish. Hein?
Gilbert Bribois.
Le petit rire de Gentil Gana. Il nous manque Gentil Gana dans l'after. On aimerait bien le retrouver, pourquoi pas un jour dans l'after. On va peut-être l'inviter. Tiens, bienvenue en tout cas, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'after. L'émission qui dit tout ce que le monde du football ne pense pas encore avec ce soir. Damien Périnel. Damien, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Et Kevin Diaz. Salut Kevin.
Bonsoir à tous.
Programme de l'after, les gars, ce soir. La CAN, l'OM et le Mercato. CAN avec le début des quarts de finale aujourd'hui. Le Sénégal se qualifie en battant le Bénin 1-0. Le Nigeria se qualifie en battant l'Afrique du Sud 2 buts à 1. On parlera de l'OM parce que l'interview du jour de Jacques-Henri Hérault inquiète les supporters marseillais. D'ailleurs, le 32-16 est ouvert. Hein. Supporters marseillais, appelez-nous. Nous dire ce que vous pensez du nouveau projet marseillais de formation de joueurs. Donc, ce sera dans quelques minutes dans l'after. Et puis, évidemment, l'actu mercato du jour. Il s'est passé plein de trucs aujourd'hui dans plein de clubs différents. Enfin, on prend une petite photographie de tout ça et vous pourrez réagir selon votre club, évidemment, au 32-16. N'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer des messages sur Direct Studio via l'appli gratuite RMC Sport. En plus, elle est toute nouvelle, la pluie là elle est magnifique, donc téléchargez-la et envoyez-nous vos messages en appuyant sur la petite radio en haut à droite. Et puis il y a également le hashtag RMC Live sur Twitter, si vous êtes sur Twitter, pour nous envoyer vos messages. On va démarrer par la CAN, bien sûr, le Sénégal qui fait partie des favoris, qui se qualifie. Le Nigeria, inconstant mais présent en demi-finale. On les attendait pas forcément en demi-finale, les Nigérians, hein, mine de rien. Ils ont réussi à se qualifier dans les dernières secondes. 32-16, on vous attend pour parler de ces matchs. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars?
Le Nigeria a été au-dessus, hein, sur ce match, comme tu l'as dit, Gilbert. Après leur premier tour assez poussif et leur inconstance, ça alternait le moyen et le mauvais, même pas le
ils
bon.
Ils ont réussi à perdre contre Madagascar quand même.
Voilà, ce qui est bon, même si Madagascar est en feu lors de cette CAN. Mais en tout cas, ils ont su répondre présent là lors de ce match. Et puis, bon, leur victoire n'est pas volée.
C'est vrai que le Nigeria, moi, je les avais pronostiqués vainqueurs avant le match, et ça a été le cas. Ils ont plutôt dominé avec leurs individualités. On sait que c'est quand même un grand pays de football qui produit certes pas les individualités qu'on était habitué à voir, hein, les Manco Kanu, etc. On en a parlé juste avant, mais quand même avec un Moussa, avec Iwobi et aussi Mukwueze de Villarreal.
Qui a marqué, ouais.
Qui a marqué, on a vu quand même que c'est ces individualités-là qui ont permis aux Super Eagles de remporter ce match de façon assez méritée.
Bah, tu regardes les 4 joueurs offensifs, donc tu as cité Iwobi, Igalo, qui était pour l'instant le meilleur buteur du Nigeria, Moussa et Chukwueze. Alors évidemment, c'est pas du niveau de Okocha et compagnie de la grande époque. Bon, c'est pas mal quand même.
Ouais, c'est quand même des joueurs qui évoluent
c'est
dans.
C'est pas de la méga star européenne, mais c'est,
des jeunes joueurs aussi. Voilà.
On oublie Ndidi, hein, qui joue à Leicester, qui a fait une très bonne saison également. Qui stabilise le milieu
dans cette équipe, comme souvent. Et bien sûr, le Sénégal. Si demain, l'Algérie et la Tunisie venaient à se qualifier, on aurait quand même 4 grandes nations du football africain, alors qu'on a quand même vu qu'il y avait eu pas mal de surprises ces derniers jours dans cette compétition.
Bah, à la fin du premier tour, on pronostiquait plutôt une CAN maghrébine, enfin Afrique du Nord, quoi, en général, en incluant l'Égypte dedans. Qui est pas dans le Maghreb, l'Égypte, enfin qui est Afrique du Nord quand même, voilà. Et moralité, on se retrouve déjà avec 2 pays d'Afrique noire en demi. Donc que va-t-il se passer demain?
Deux grands pays.
On va savoir.
Deux historiques.
Et puis ouais,
comme si le Sénégal n'a jamais gagné la CAN.
Comme l'a dit Kevin tout à l'heure, c'est un peu la CAN des surprises. Hein. Lorsque le favori est ultra attendu, ça se complique pour lui. Donc on verra avec l'Algérie demain.
Mais attention aux Algériens, même si
Côte d'Ivoire, Algérie demain.
Attention aux Algériens, sortez pas trop vite les drapeaux quand même.
Même si quand même, même petite pièce sur
Attends, ils ont pas
Belmadi.
Encore rangé les drapeaux de la fois d'avant. Donc,
je mets quand même petite pièce sur Djamel Belmadi parce que comme on l'a déjà dit aussi, mais il a quand même fait du très très bon travail avec sa sélection et donc je pense qu'il va bien les préparer, que ce soit mentalement, tactiquement, techniquement. On sait que ça c'est pas un souci chez les Algériens.
Ils partent favoris contre la Côte d'Ivoire.
Je pense qu'ils sont favoris et je pense quand même qu'ils vont se qualifier.
Compte tenu de leur parcours, hein, en poule et jusqu'à présent, c'est l'équipe, comme on l'a dit avant, la plus cohérente et la meilleure équipe de ce premier tour et jusqu'à maintenant.
Maroc.
Le Sénégal, vous a impressionné ou bof?
Bon, le Sénégal, c'est un peu pareil que le Nigeria. C'est une grande nation du football africain, même s'ils n'ont jamais remporté la CAN. C'est quand même une équipe qui a pas mal d'individualités. On les rappelle, hein, bien sûr, Sadio Mané, Mbanyang, également Idrissa Gueye. Donc, sur chaque ligne, ils ont quand même des joueurs très solides. Koulibaly, bien sûr, en défense. C'est une équipe qui est stable, qui est pas très spectaculaire, mais qui a pris qu'un seul but dans cette compétition. C'est une équipe qui est donc rigoureuse défensivement et qui a bien sûr des individualités offensives. Donc bien sûr, attention aux Lions de la Teranga parce que ils vont pas être loin quand même de pouvoir remporter cette coupe.
Il y a eu juste un petit truc d'arbitrage là lors du match Afrique du Sud Nigeria. Le but, bon, qui finalement n'a pas de conséquences puisque le Nigeria a remarqué derrière, mais le but de l'égalisation sud-africain avec une déviation du dos involontaire, enfin a priori, oui. D'un Nigeria, c'est quand même compliqué de se dire que c'est volontaire de...
Moi, je connais que Rony qui fait des passes du dos.
Ouais. Voilà, c'est ça.
C'est le seul.
Et là, j'ai Othello, par exemple, il me dit, donc maintenant, une déviation du dos d'un défenseur vers l'attaquant, c'est pas hors-jeu. Une main involontaire du défenseur dans la surface, c'est péno. Bon, ça, c'est les conséquences de la VAR, messieurs, dames.
Ouais, excusez-moi. Ah bon, je vois pas, bon, là, pas trop pas le rapport là, c'est l'interprétation.
Ah oui, c'était pas toujours facile à juger, mais bon. On va dire que c'est le défenseur qui a touché le ballon, donc c'est juste... que le but soit validé, même si on peut douter de l'intentionnalité de cette passe du dos. On va laisser filer pour ce coup-là.
Bon. Et j'ai Mark Landers qui dit « Bien joué le Sénégal de perdre contre l'Algérie pour terminer deuxième et aller dans la partie de tableau où ça va passer pour aller en finale. »
C'est ce que l'équipe de France féminine aurait dû faire, c'est ça que tu veux dire ?
Ah !
Pour sortir en demi ?
Voilà, bah attends,
c'est ça que tu veux dire.
Ça, c'est pas de notre culture.
Pour perdre la finale.
Non, on n'est pas des Uruguayens ou des Argentins. C'est-à-dire que si toi, tu vois un sélectionneur arriver et dire, bon, écoutez, demain, si on gagne pas, c'est pas si grave.
Non, mais lors de ce match-là, en plus, il y avait beaucoup de blessés du côté sénégalais. Idrissa Gueye, ouais, notamment, avait manqué ce match-là. Et on voit que lorsque ce joueur est présent dans le 11 de départ, c'est plus la même équipe. Hum. Certes, le Sénégal, c'est pas génial, mais leurs individualités et un Sadio Mané qui est aujourd'hui le meilleur buteur, il me semble, de la compétition, même s'il est critiqué, il répond présent.
Oui, il est critiqué, mais c'est quand même lui, hein, qui fait cette petite passe D, là, subtile de l'extérieur du droit pour Idrissa Gueye, qui est lancé dans la surface de réparation. Alors, même si l'enchaînement d'Idrissa Gueye, il est vraiment magnifique, hein, le contrôle, la frappe croisée, c'est digne d'un attaquant. Mais comme tu dis, c'est un joueur qui est trop important pour cette équipe au milieu de terrain. Gueye, qui est un peu le N'Golo Kanté de cette équipe sénégalaise, qui régule le jeu, qui est devant, derrière, qui arrive à se projeter et qui récupère surtout beaucoup de ballons pour les Sénégalais.
Je regarde le classement des buteurs, c'est 4 buts, je crois, désormais, Sadio Mané. Hein.
Voilà. Avec 2 pénaltys ratés.
Avec en plus 2 pénaltys ratés. Il y a Adam Ounas qui a 3 buts, Igalo et Bakambu. Bon, ben Bakambu, il marquera plus. Igalo et Ounas peuvent. Bon, ça dit, Ounas sans être titulaire, 3 buts.
C'est ça, toujours rentré. Mais ce qui, pour revenir à l'Algérie, ce qui prouve aussi l'implication des joueurs sur le banc. Ce sont des joueurs, quand ils rentrent, ils font des différences, ça boude pas. Là où on pouvait voir des excès d'ego auparavant en Algérie, au Maroc, là on sent que c'est un groupe vraiment qui investit d'une mission. Et peu importe, tu commences pas, tu peux être déçu, mais quand tu rentres, tes états d'âme, tu les laisses sur le banc et sur le terrain, tu fais ce qu'il faut.
D'ailleurs, tiens, à propos de bouder, on a vu le pauvre Moïse Assène, enfin le pauvre. Au final, Giresse a eu raison quand il a changé son gardien avant-hier. Moïse Assène, il faisait la gueule. Et Giresse était tout à l'heure dans le RMC Football Show, là. Et il a dit, non, mais moi, c'est un truc qui se fait fréquemment. Il dit fréquemment. C'est pas non plus tous les deux jours qu'on voit un coach changer son gardien pour la séance de tir au but. Hein.
Je te laisse parler, Kevin.
Mais...
Il y a que les Pays-Bas qui font ça, en fait.
C'est vrai qu'on l'a
fait. Les Pays-Bas l'avaient fait à la Coupe du Monde, ça avait marché. Bah là, Giresse, ça a marché. Donc, Moïse Assène, c'est le jeu, quoi.
J'ai vu sur un média néerlandais qui disait Giresse la joue à la Van Gaal.
Ouais.
Donc, mais bon, moi, personnellement, je suis pas très fan, même si c'est vrai qu'il y a des gardiens, on le sait tous. Il y a des gardiens qui sont meilleurs que d'autres dans les séances de tir au but, comme il y a des tireurs qui sont meilleurs que d'autres pour frapper. Et ben, c'est pareil pour arrêter. Si vraiment le gardien tunisien, c'est peut-être sa spécialité.
Sarri voulait le faire en finale de cup avec Kepa, sauf que Kepa avait refusé de sortir.
Exact. Non, mais attends, moi, tu sais que, alors d'ailleurs, Dupuis, le sélectionneur du Sénégal, voulait le faire avant la séance, sauf qu'il avait fait tous ses changements. Mais il avait prévu, si à séance, je mets un autre gardien.
Non plus, faut que les gardiens surtout. Mais
tu sais que moi, je reste convaincu d'un truc. La finale 2006, France-Italie. Tu sais que si Landreau a bien une qualité, c'est les séances de tir au but.
Oui.
Alors que Barthez, excusez-moi, les séances de tir au but.
Excuse-moi, Gilbert.
Moi, je t'aurais foutu Landreau là.
Non, mais je vais te dire un truc. C'est un truc malheureusement qu'en France on fera jamais. On fera jamais ça en France.
Oui, c'est vrai.
En France, il y a jamais
Domènech, jamais t'imaginer Domènech faire ça.
Un entraîneur du Serail de la DTN qui sort son gardien. Voilà, c'est pas des choses qu'on fait. Ouais, on n'a pas cette folie, on n'a pas cette.
Surtout que c'est Zidane qui faisait les changements à l'époque. Mais Zidane, elle avait pris rouge, donc il n'était pas là pour faire le changement.
Ah, c'est ça.
Ah ouais.
Voilà. En club, ça s'est vu, hein, parce que Guingamp l'a fait cette année avec Caillard.
Et avec succès d'ailleurs.
Eh. L'entraîneur de Guingamp, c'est qui?
C'était
Gourvenec.
Ouais.
Je sais pas, il y en a eu quelques-uns cette
année. Gourvenec, il vient d'où? Et voilà, tu vois, là, ton exemple, là, je te l'ai ruiné. Gourvenec, monsieur, un homme de la DTN, ouais, un breton.
Non,
bam.
Gourvenec, c'est l'école nantaise, c'est pas pareil. C'est Cocosiodo, ça.
Ouais, bon, enfin bon.
Ah ouais, mais non, Cocosiodo, c'est football.
Il est gonflé, quand même. Non, mais j'aurais.
Je suis pas gonflé, je suis clair et précis.
Bon. Un mot sur Sadio Mané, un peu plus en avant, parce que on parlait du duel à distance Salah-Mané. À la fin du premier tour, on avait tendance à penser que Salah, avec quand même une voix royale et tout, d'autant qu'il portait vraiment son équipe. Et on se retrouve une semaine plus tard, Mané, il est meilleur buteur, et Salah, il n'est plus là. C'est quand même fantastique. Le retournement de situation totale dans le duel à distance entre les deux, là.
Bah, de toute façon, c'est clairement, pour moi, les deux meilleurs joueurs de cette CAN avec Riyad Mahrez, et peut-être Hakim Ziyech, même s'ils sont déjà fait éliminer. Maintenant,
bon, Hakim Ziyech, c'est le Ziyech qui parle, là, Kevin.
Ziyech, sors-moi-le, avec le match qu'il a fait.
Je vous parle de Hakim Ziyech. Le footballeur, pas forcément.
Non,
le
joueur, là, je te parle de la CAN, moi.
Je parlais des qualités intrinsèques.
Non, mais le dernier match qu'il a fait, entre le pénalty raté et l'occasion énorme en prolongation, il ne peut pas être dans ton quatuor.
Non, je parlais avant cette compétition des protagonistes de cette CAN. Maintenant, il ne reste plus que Mané et Mahrez. Et c'est vrai que Mané, qui a quand même également gagné la Ligue des Champions, j'espère que s'il gagnait cette CAN, il ferait partie au moins du top 3 minimum de ce ballon d'or.
Quelques réactions sur le hashtag RMC Live. J'ai par exemple Engor qui me dit Aliou Cissé, c'est le Deschamps de l'Afrique, pragmatisme, mais pour le jeu, il y a pas grand chose.
Pas faux, hein, mais si il les emmène au bout, alors certes, comme l'a dit Madjer Daniel, en termes d'émotion, il y aura pas eu grand chose, mais il y a le trophée à la fin. Et honnêtement, ils sont partis sur cette voie-là. C'est-à-dire que ça n'a jamais été génial depuis le début, mais ils prennent pas de but, ils sont solides, ils ont un phénomène devant qui marque.
Moi, je vais vous dire, le Sénégal me fait penser à un autre pays qui m'est cher, c'est le Portugal. Le Sénégal n'a jamais gagné une CAN, et c'est peut-être l'année où ils sont le moins beaux qu'ils vont la gagner, en tout cas, je leur souhaite. Et c'était un peu pareil pour le Portugal, d'ailleurs. On est le 10 juin aujourd'hui. C'est l'occasion de faire un petit clin d'œil à cette frappe
déjà
à la 109e minute.
Ça, nous, on s'en souvient pas, nous.
Vous en rappelez pas. Mais voilà, le Portugal qui avait aussi, été avec une sélection des moins spectaculaires de son histoire. Et c'est celle-là qui avait remporté le titre. Donc, les Sénégalais.
J'ai des supporters rennais qui me disent arrêtez avec le ballon d'or pour Mané. Si Sarr et Niang gagnent la CAN, Coupe de France plus CAN, c'est ballon d'or.
Nous, on est sérieux. Écoute. Par rapport aux supporters rennais, nous, on est sérieux.
C'est ça. Et puis une défaite contre Arsenal.
Ah, mais les rennais ont du bourg.
C'est vrai.
C'est déjà ça. Et puis j'ai Abdias qui me dit comment ça, la Côte d'Ivoire est largement une plus grande nation que l'Algérie, s'il vous plaît. On parlait de génération.
Alors toi, si tu avais écouté l'émission d'avant, je peux te dire que la Côte d'Ivoire, avec on en a beaucoup parlé avec la génération Yaya Touré, Drogba, enfin toute cette belle génération. En effet, c'était du très très haut niveau.
Alors apparemment j'ai dit Dupuis sélectionneur du Sénégal tout à l'heure, j'ai fait une boulette, c'est bien Madagascar, hein. Évidemment. Et puis Fab nous dit mort de rire, Kevin, arrête de défendre Ziyech, s'il te plaît.
Non, je peux pas.
Non, mais reconnais quand même qu'il plombe le Maroc.
Il plombe le Maroc, mais ça arrive sur un match de passer à côté, comme n'importe quel travailleur peut passer à côté sur une journée de travail. Il ne faut pas, croire que les footballeurs sont.
Non, mais d'accord,
il n'a pas été bon sur un match.
Bah oui, mais
il a fait une saison extraordinaire.
Il a fait une saison extraordinaire et ayant suivi un peu plus l'Ajax cette année grâce à toi et grâce à leur parcours. Au-delà de ce que je pouvais penser de ce joueur, en plus de ça, c'est un joueur qui est très collectif, qui sent vraiment le football. Mais sur cette CAN, pour moi, il était aux abonnés absents, malheureusement. Mais au-delà même de techniquement, c'est mentalement où il a plongé au fur et à mesure.
Pardon,
de
les,
cette
les bons Marocains sur cette CAN, c'est Belanda, Amrabat. Il y en a d'autres devant Ziyech. Hein.
Oui, Amrabat formé au FC Omni World.
Je mets Romain Saïs.
Romain Saïs, pourquoi pas?
Non mais c'est vrai, mais bon, moi je disais pas qu'il a été bon dans cette CAN. Je parlais des protagonistes avant la CAN.
Et puis, oui, alors, tiens, à propos des gardiens, j'ai Medeb qui nous dit sur Direct Studio, le staff a changé de gardien, car Ben Mostefa, alors ça c'est apparemment ce que dit Medeb, ce qu'a expliqué le staff, parce qu'il fait 1m96 et qu'il a des plus grands bras. Ça me paraît un peu bizarre, ça me paraît un peu court comme explication, tu vois.
Non mais c'est possible hein. Dans la la surface que prend un gardien dans le but, forcément hein, quand il se détend sur le côté, faut vraiment la mettre à ras du poteau pour tromper un gardien.
Mais sur le changement de gardien, je me souviens des commentaires des joueurs de Manchester City lors de la finale, lorsque Kepa refuse de sortir, et les joueurs de Man City qui connaissaient très bien, donc c'était Caballero sur le banc qui devait rentrer, et il commençait à flipper d'aller au pénalty parce qu'il savait que c'était Caballero, qu'il était très performant. Donc, est-ce que psychologiquement ça peut jouer sur les joueurs adverses? Là, c'était un cas particulier parce que c'était l'ancien gardien de Manchester City, donc il pouvait connaître les préférences des tireurs.
C'est vraiment une bonne idée pour le coup de le faire.
Là, ça aurait été une bonne idée.
Mais lors de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas, c'est Jasper Cillessen qui est remplacé, qui est absolument nul sur pénalty. Alors, faut pas lui dire parce qu'il aime pas l'entendre, mais franchement, il est nul. Mais vraiment, je crois qu'il a arrêté peut-être un pénalty dans toute sa carrière.
Excuse-moi, mais il y a du monde qui te lâche. On te lâche pas sur Ziyech, mon vieux, là. Fab nous dit, ah ouais, Ziyech contre Tottenham, il a été bon.
Mais Ziyech, c'est le meilleur passeur du championnat néerlandais depuis 4 saisons. Donc,
non, ça,
faut pas me parler
c'est un jeune joueur. Mais il est vrai que s'il a raté deux matchs décisifs, le match décisif du Maroc et de l'Ajax.
Mais non, il a été très bon contre Tottenham. Je sais pas quel match ils ont regardé, mais c'est pas le même que moi, en tout cas. Contre Tottenham, Ziyech a été très bon. Ziyech, c'est quelqu'un déjà que moi, j'étais pas trop fan il y a encore un an et demi. Parce qu'il avait vraiment un sale caractère et il s'est fait siffler à l'aréna plusieurs fois. Avec le Maroc, on sait qu'avec Hervé Renard, ça s'est mal passé. Moi, je trouve vraiment que c'est un joueur qui a progressé, que ce soit mentalement, mais également tactiquement. Il fait beaucoup d'efforts pour l'équipe aujourd'hui. Il a attaqué, il a défendu, il a eu une grosse saison, que ce soit physique, que ce soit mental, avec son club de l'Ajax. Je pense qu'il avait à cœur de faire quelque chose de bien avec sa sélection marocaine. Ça n'a pas été le cas. Il aurait pu être le héros. Il a été le héros malheureux, mais on ne peut pas lui enlever sa saison exceptionnelle.
Je vous livre un message de Lucas qui arrive là. Il lui dit « Cher Gilbert, je vous écoute depuis longtemps. J'ai remarqué un étonnant revival du Domenech bashing. Alors, on est globalement d'accord sur sa valeur d'entraîneur, mais quand même sur la forme. Réécoutez vos commentaires à la fin de France-Portugal 2006 et analysez vos propos avant de donner des leçons sur les gens qui retournent leur chemise. Un peu facile de démonter un mec chaque soir 15 ans après l'avoir encensé. Eh bien, écoute, mon petit Lucas, je crois que tu n'as pas tort. Non, il n'a pas tort.
On l'a encensé ?
Non, mais le parcours de 2006, France-Brésil...
Mais le parcours de 2006, c'est pas Domenech.
Mais on s'en fout, sur le moment, en 2006.
Enfin, moi, je l'ai pas encensé, en tout cas.
Tu mettais tout le monde dans le même sac. On disait pas, allez, en 2006, bon, j'y étais. Après France-Brésil, après France-Portugal, et puis il y avait quoi, de France-Espagne. Bon, bah, on disait bravo Domenech, comme on disait Zidane, bravo Vieira et bravo les autres.
Mais avec Zidane à ce niveau et avec cette équipe, même.
Ouais, mais on dit ça plus de 10 ans après.
Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que même à l'époque, les gens étaient assez réalistes sur la performance de Domenech. Et les seuls qui l'ont pas été, ça a été la fédération qui leur a renouvelé son contrat pour X années. Alors que c'était clairement Zidane qui avait pris le pouvoir dans cette équipe.
On revient sur le cas de Domenech, parce qu'on en a parlé dans l'émission d'avant, hein, pendant le match, c'est pour ça. Mais voilà, Lucas a écouté et. Il voulait réagir. Bon, juste un mot là pour finir sur la CAN. Demain, donc Algérie, Côte d'Ivoire, vous voyez quoi comme scénario?
Moi, je vois quand même l'Algérie qui s'impose parce que je trouve que ils sont favoris dans ce match, même si les Ivoiriens ont également des atouts. Ils seront pas, au contraire, ils seront outsiders et on sait que les outsiders ont souvent réussi dans cette CAN. Mais ouais, moi, je vois une victoire de l'Algérie au forceps 1-0. But de Riyad Mahrez.
Encore une fois, attention à ce costume de favori. D'ailleurs, Belmadi refuse ce costume. Alors peut-être c'est pour s'alléger d'une certaine pression par rapport au match de demain. Les Ivoiriens, on attend beaucoup mieux de leur part. Peut-être que c'est justement le match où Nicolas Pépé va être en feu, va se révéler et que ce collectif va émerger.
Il traverse la CAN un peu en fantôme, Pépé. Hein.
C'est ça, mais justement le jeu de l'Algérie peut être bon pour Nicolas Pépé.
Nicolas Pépé, à l'image de ce qu'on disait pour Ziyech, c'est un gars qui a fait une énorme saison, qui a beaucoup donné, qui a été très performant, qui veut sûrement briller avec sa sélection, mais ça reste que des hommes. Hein.
Et l'autre match, flancher. Madagascar-Tunisie.
Moi, je vois une surprise.
Donc Madagascar
1-0.
Qui est pas favori, on est d'accord.
Ouais, les Malgaches qui sont complètement dans l'euphorie, qui ont absolument rien à perdre, qui ont de la qualité, qui ont beaucoup de joueurs de qualité, des joueurs qui lâchent rien. Pourquoi pas?
Ouais, ça ferait plaisir pour ce peuple malgache qui vit dans un pays très pauvre. Ça leur fait du bien, un peu de joie. Et puis également pour certains collègues, comme j'en parlais l'autre jour, Faneva Andriatsima, qui vraiment s'investit pour sa sélection, pour son pays. Et c'est une très belle récompense pour eux aujourd'hui.
Nicolas Dupuis, qu'on avait l'autre soir, rappelez-vous, disait que lui, il voulait la Tunisie avant le match. Parce qu'il est, bon, il dit, bon, en plus, c'est à la Grèce et tout, mais il pense que la Tunisie correspondait mieux à Madagascar.
À voir, déjà, sur ce qu'on a vu de la Tunisie, on peut être que sceptique sur leur niveau de jeu, sur leur qualité technique. On a Kazri qui fait une bonne canne, mais sans plus, c'est pas non plus
le sur le terrain.
Voilà, sur le dernier match, c'était pas le cas, mais c'est lui qui fait une belle déviation qui amène le centre quand tu es sur le terrain. Names Liti, on attendait beaucoup plus de lui également. C'est vrai que cette Tunisie fait pas le figure aujourd'hui.
Bon, on a lancé le débat Domenech. Du coup, voilà, j'ai que des messages Domenech. Jacques qui lui dit arrêtez un peu avec Domenech, ce bashing est indécent. C'est pas du tout Zidane qui a fait l'équipe. Et puis d'ailleurs, avec son coup de tête, alors là.
Donc on n'a plus le droit de faire des blagues. C'est fini.
Et puis après, j'ai Golden Boy qui dit Domenech est un imposteur, il n'a aucun mérite. Donc comme quoi, tous les avis sont là. Non,
moi, pour moi, c'est pas une blague. Je pense vraiment que c'est Zidane qui a bien aidé pour faire l'équipe. Mais ça arrive dans des clubs.
Non, mais il y avait une certaine auto-gestion, certes, mais avec la complicité du sélectionneur.
Sélectionneur intelligent qui voit que ça fonctionne bien et que les mecs se prennent en main. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas aller casser ça.
Mais c'est normal. Un aveugle qui sait pas conduire, il laisse conduire celui qui est à côté.
Bon, dans quelques instants, l'Olympique de Marseille au programme. Supporters marseillais, on vous attend, 32-16, bien sûr, pour réagir à l'actu du jour marseillaise, mais aussi à l'interview de ce matin de Jacques-Henri Hérault, bien sûr, qui parle maintenant de projet de formation à Marseille. Donc, c'est plus tout à fait le projet Champions Project du début. Êtes-vous inquiet? On vous attend au 32-16. Et puis, je modifie également un truc. On a parlé des meilleurs buteurs de la CAN. Mané est bien à 3 buts, parce qu'en fait, c'est Gueye qui a marqué aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je lui ai rajouté un but, moi. Non, c'est bien Gueye qui a marqué aujourd'hui. Donc, Sadio Mané reste à 3 buts. Tout comme Ounas et Igalo, le Nigérian. Allez, à tout de suite dans l'after.
Jacques-Henri !
Mais quoi qu'il y a ?
RMC, l'after-foot, Gilbert Bribois.
C'est l'after jusqu'à minuit, bien sûr, avec vous, avec Kevin Diaz, Damien Perrinel ce soir. On a parlé de la Coupe d'Afrique, on peut y revenir au 32-16, n'hésitez pas à nous appeler. Mais appelez-nous pour parler de l'OM tout de suite. L'OM au programme, pourquoi ce soir? Parce que, avant de parler de l'actu Mercato tout à l'heure, on voulait revenir sur l'interview du jour de Jacques-Henri Hérault. C'était dans l'équipe ce matin, longue interview, où il dit des choses qui peuvent paraître assez inquiétantes, en tout cas, qui ont fait beaucoup réagir aujourd'hui. Les supporters marseillais, qui dit Jacques-Henri Hérault, dit jingle Jacques-Henri Hérault, bien sûr.
Jacques-Henri !
Mais quoi qu'il y a ?
Ça, t'aimes bien. Hein.
Il est exceptionnel.
Kevin, il kiffe le jingle Jacques-Henri. Alors, Jacques-Henri Hérault dit on doit davantage céder de joueurs qu'en acheter. Nous devons alléger de façon très significative notre masse salariale. Donc bon, le message confirmé est clair, hein, on le savait depuis quelque temps, mais là, il le redit. Et il ajoute, et c'est peut-être ça le plus important dans l'interview, parce que, bon, évidemment, les journalistes se posent la question, bon, alors, vous avez vendu le Champions Project, on voit bien. Alors, lui dit, ouais, mais bon, fallait plus se baser sur le terme Champions Project, ça ne voulait pas dire forcément qu'on allait gagner la Ligue des Champions et tout. Bon, il essaye un peu de, comment dirais-je, de revenir sur ce... Il s'était quand même pointé avec la Coupe d'Europe sous le bras le premier jour où il est arrivé, il faut se rappeler, Jacques-Henri Hérault devant les joueurs. Il dit là, on va passer à un modèle basé sur la formation et la post-formation, et ça ne se fera pas en 2 ou 3 ans. Alors quand on entend ça, on se dit, attends, donc là il est en train de nous dire que on va pas acheter de joueurs connus ou de grands joueurs, et qu'en gros, on va se baser sur un centre de formation qui, à Marseille ces dernières années, a pas été le centre de formation où tu as sorti le plus de mecs, quand même, on va pas se mentir, c'est pas Lyon, c'est pas Rennes ou d'autres. Et bah c'est un peu flippant, non? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est clair. Jacques-Henri Hérault, il est en train de nous faire c'est pas le Champions Project, c'est plus le Champions Project, c'est le rattrapage project. Au bac, on passe le rattrapage lorsqu'on n'a pas eu le bac.
Cette année, on le donnait, mais...
Bon, eh ben, c'est simple. Ils ont essayé le Champions Project, ils ont tenté de faire venir des joueurs avec des gros salaires, à créer une équipe qu'ils pensaient être compétitive. Ça a raté. Ils ont dépensé leur enveloppe en totalité, hein, ces fameux 200 millions. Maintenant, ils doivent assumer la masse salariale. Ils savent pas où aller. Ils sont complètement perdus. Et donc, ils tentent de se raccrocher aux branches. Et ils pensent, le trading, ça marche à Lille. Ça a marché à Monaco. On va tenter de le faire ici. Parce que c'est la seule façon qu'ils ont de rattraper leurs millions qu'ils ont laissé filer, qu'ils ont distribué de façon complètement désordonnée. Et aujourd'hui, c'est clairement de la politique de crise. Pour moi, ça, c'est de la communication de crise. Mmh. Ils sont en crise et ils veulent pas le dire. Mais les supporters marseillais, malheureusement, ont le droit et ont intérêt à être inquiets pour leur club.
Je sais pas s'il a pris vraiment conscience qu'il est président de l'Olympique de Marseille. En gros, là, ce qu'il demande aux supporters, après les avoir déçus, c'est en plus de ça maintenant...
D'attendre.
Il faut qu'ils soient patients. Ouais. Parce que quand tu mets un projet de formation qui peut être louable, et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'ils ont ce projet hein, de formation, on n'a jamais vu le jour...
Donc là, il se réjouit de l'arrivée du nouveau patron du centre de formation.
Hein, certes, alors c'est un, en plus, Nasser Larguet, c'est un très bon formateur, mais les résultats de cette formation, tu vas pas les avoir l'année prochaine, ni dans deux ans. Au mieux, tu les as dans trois, voire quatre ans, si tu travailles très bien. Et le problème de leur enveloppe des 200 millions, c'est qu'ils ont fait des coups, ils ont fait paillettes, surpayés, ils ont fait Troutman, surpayés sur des joueurs trentenaires,
Rami,
sur lesquels tu ne pourras jamais revendre. Le problème, c'est que tu ne peux pas te tromper quand tu as un tel budget et que tu investis tellement sur des joueurs. Non seulement tu fais ça, t'as jamais été en Champions League. Voilà. La Coupe d'Europe, aujourd'hui on a oublié qu'ils ont été en Coupe d'Europe. À cela s'ajoute, ça peut paraître anecdotique, mais l'histoire du sponsor sur le maillot avec le verre de Saint-Etienne. C'est-à-dire que là, moi aujourd'hui, je supporte, si je dois être supporter de Marseille, mais je me dis, où va mon club?
Est-ce que vraiment, je pense que Jacques Henriero, c'est quelqu'un qui doit être intelligent. Est-ce qu'il pense vraiment, aujourd'hui, qu'il a un avenir à l'OM? Quand je dis un avenir, je veux dire plus d'une saison. Je comprends pas comment ce président pense qu'il a un avenir. Parce que ça, c'est le discours d'un président qui se dit, tiens, je vais m'acheter quelques années, là, pour, entre guillemets, pour nous refaire, parce que, comme j'ai dit, on a mal investi, ça a pas fonctionné. Mais moi, si j'étais président de l'OM, ou si j'étais le conseiller du président, je lui dirais, écoutez, président, là, les supporters ne tiendront pas plus d'une saison avec vous. Donc, allez les voir et dites-leur. L'année prochaine, si je ne suis pas dans le top 3, je démissionne. Point terminé. C'est la seule façon qu'ils puissent survivre une année sans les banderoles. Je vous mets l'objectif. On est venu, on avait un objectif. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, j'assume mes responsabilités. Par contre, ce n'est pas terminé. On a encore de la qualité. On a des joueurs d'expérience. Aujourd'hui, un club, ça se construit comment ? Un bon entraîneur, un bon staff. Je pense qu'ils l'ont. Villas-Boas. Et surtout celui que moi j'adore, Carvalho, quelle classe.
Ricardo Carvalho qui est adjoint de Villas-Boas.
Ricardo Carvalho, quelle grande classe. Un gars qui peut apporter, les joueurs vont le respecter. Je pense que si Villas-Boas l'a choisi, c'est pas pour rien. Il a déjà été en France, il parle même français sûrement, donc c'est bien. Ensuite, des joueurs d'expérience. On l'a vu, hein, l'Ajax, Dortmund, ils font tous ça. Des joueurs d'expérience,
ils mais ils se trompent pas sur leur joueur d'expérience.
Oui, mais je pense que Mandanda affûté, Payet, ça reste un bon joueur. Strootman, on n'aime pas. C'est quand même un joueur de qualité. Les joueurs d'expérience, ils les ont. Les jeunes joueurs, il y a Camara, il y a Lopez. Bon, ils vont devoir en vendre peut-être, mais il y a quand même quelques bons joueurs. Maintenant, c'est les joueurs intermédiaires qu'ils recrutent. 4-5 joueurs, j'avais parlé une fois de Mathieu Cafaro, j'ai lu sur Twitter, je ne sais pas si c'est vrai, mais que l'OM est vraiment intéressé. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres joueurs en France ou en Europe qui peuvent être intéressants pour l'OM. Voilà, que Jacques Henriero dise, on va reconstruire cet effectif, si je finis pas dans le top 3, messieurs, j'aurais raté mon objectif, au revoir, je laisserai ma place à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que les supporters lui laissent encore 2-3 ans, c'est alors, impossible.
Quelques réactions, là j'ai Madger par exemple sur Direct Studio qui me dit Héro aurait dû lancer ce modèle-là dès son arrivée plutôt que faire de grosses annonces. Et puis Spain qui nous dit donc le wagon pour la réforme de la Ligue des Champions, j'ai peur que Marseille le rate, d'autant qu'il y a des investisseurs lillois, niçois, bordelais. Pas sûr du tout que Marseille soit dedans. Il en parle d'ailleurs de cet objectif, la future Ligue des Champions héros, comme un objectif maintenant à atteindre. On va accueillir Hervé au 32-16 qui est avec nous, supporter de l'OM. Salut Hervé.
Oui, bonsoir Lester, bonsoir Gilbert, bonsoir à vous tous.
Salut Hervé.
Bon Hervé, t'es inquiet toi aussi quand t'entends tout ça là ?
Bah, juste avant de commencer, je voudrais faire un grand salut parce que c'est un soir spécial pour moi. La première fois que je passe à l'after depuis les années où je vous écoute et en plus, j'habite à Auckland le reste de l'année.
Ah!
Je repars demain en avion à Auckland, donc c'était un peu ce soir ou jamais pour vous avoir.
Ah, bon, on est ravis.
Auckland en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis?
Non, Nouvelle-Zélande à Auckland et je suis sur une petite île en face d'Auckland. Ça s'appelle Waikiki Island, qui est un vrai paradis. Paradis.
Et qu'est-ce que tu fais là-bas à Auckland?
Si c'est pas indiscret. Ma famille néo-zélandaise.
D'accord.
Donc on a commencé les 12 premières années en France et puis qu'on a eu nos enfants à l'âge de rentrer à l'école. On a décidé de leur donner un petit peu l'esprit kiwi et on est parti il y a 4 ans là-bas. Et donc c'est un pur plaisir. Donc la prochaine fois, Gilbert, tu fais un débrief des vacances avec Daniel, Pierre, etc. pour voir qui s'est loupé sur ses vacances. Moi, je pourrais vous faire de la pub pour la Nouvelle, bon, la Nouvelle-Zélande.
Ah ouais, attends, la Nouvelle-Zélande, faut pas se gourer de saison pour y aller. Hein.
Non, mais même l'hiver sur l'île du Sud, c'est magnifique. Donc faut pas.
Moi, j'ai fait du ski en Nouvelle-Zélande en mois de juillet.
Il y a d'autres choses à faire l'hiver. Donc de toute façon, c'est 12 mois sur 12 avec grand plaisir.
Voilà. Alors, juste avant de parler de l'OM, là, donc tu podcastes l'after là-bas en Nouvelle-Zélande?
Ouais, je podcaste l'after pour le matin au travail. En allant, excellent. Parce que je prends le ferry souvent pour aller travailler à Auckland, donc j'ai un petit peu de temps devant moi, puis on se lève tôt en Nouvelle-Zélande, donc je vous écoute en direct. Et puis le matin à partir de 8h du matin à peu près, ça dépend des saisons, il y a 10 et 12 heures d'écart. Donc c'est la meilleure façon de commencer la journée.
Alors t'écoutes en direct, pas en podcast?
Ouais, j'écoute en direct, mais je podcast les émissions après avec Moscato et puis après avec Duga. Donc,
et quand tu te réveilles, tu regardes les matchs de l'OM du coup?
Ouais,
et tu passes des bonnes journées après?
J'ai du mal. C'est plus difficile. Et puis l'année dernière, ça me donnait pas trop envie de. Je regardais les résultats, je regardais un petit peu les résumés sur YouTube, mais les matchs entiers, c'est difficile.
T'as pas un talent néo-zélandais pour. Pour l'OM?
Écoute, j'ai mes gamins, je coach un de mes enfants qui est en U13 à Waikiki. Mais bon, il faudra attendre un peu et je pense qu'il choisira la sélection All White parce que ce sera, à mon avis, plus facile pour y rentrer que pour les Bleus.
Bon alors, là, Jacques-Henri Hérault, quand tu lis l'interview du jour, quand tu entends ce qu'il dit, qu'est-ce que t'en penses?
Malheureusement, je pense qu'il a grillé toutes ses cartouches depuis longtemps, notre président. Et il est plus crédible, il est plus audible. Et même s'il disait des choses sensées, on est, je pense que comme beaucoup de supporters marseillais et de Marseillais, on est désabusés et on aurait bien aimé qu'il soit dans la charrette avec Rudy Garcia au mois de juin. Et malheureusement, ça s'est pas fait. On faut faire avec et moi ça me désole parce que j'aime pas tirer sur les gens dans le dos ou j'aime pas déglinguer les gens en leur disant qu'ils sont nuls et tout ça. C'est un poste qui est très difficile à Marseille, c'est hyper exposé, donc le job il est difficile, faut avoir la carrure et les épaules. Et je pense que malheureusement il a commencé par Marseille dans le métier du foot et c'était trop haut pour lui, la marche était trop haute. Et là il essaye de gagner 2 ans ou 3 ans en se disant bon pendant 2-3 ans ça va pas être terrible, mais avec le futur, avec les jeunes, on sait jamais, ça peut marcher. Mais là on va pas encore, on a eu une saison, on la connaissait, elle était pourrie, on va pas attendre encore 2 ans et être patient 2 ans à se dire que ça peut marcher avec un coup de chance quoi. Donc malheureusement McCourt, il y a trop d'écart dans la chaîne de commandement entre McCourt, Hérault et puis le coach et puis le vestiaire, et je pense que McCourt il a des échos assez éloignés de ce qui s'est passé et Hérault il a pu sauver sa tête comme ça. Mais la chaîne de fonctionnement, elle n'est pas assez resserrée. McCourt, il devrait être plus à Marseille.
Si on se souvient vraiment, on ne va pas parler de Hérault, mais de McCourt. Quand on a vu les reportages, les ambitions de McCourt, elles étaient certes sportives, mais elles étaient aussi de remplir le stade, de faire du stade un moyen de revenus important avec la gestion des abonnements, avec plein de jeux, des projets immobiliers, plein d'animations qui fait vivre ce stade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils avaient leur enveloppe pour acheter des stars tout de suite, pour amener du monde dans ce stade. Mais c'est-à-dire que là, je les vois mal pendant 2 ans. Le stade va se vider comme c'était le cas lorsque ça a été repris par Marco justement et lors de la vente de Dreyfus. Alors là en fait on fait, ce serait un bond en arrière. L'argent ils l'ont eu. En effet, je pense qu'il a été mal investi, mais surtout quand tu fais un.
Dans l'interview, il dit quand même on va recruter, Enfin, il fait pas de promesses, tu vois, à la hauteur de Strootman ou de comme
projet,
ça. Quoi.
Et surtout ouais. quand tu fais ton projet, garde-en en effet pour ton futur. Ton centre de formation qui a été rénové récemment, un nouveau centre de formation, ça, c'est un bon investissement. Mais accentue peut-être pendant un moment sur la formation et fais ce que tu peux avec ton équipe première. En ayant pourquoi pas des sursauts du quatrième, du troisième, et parfois si t'as un coup de chance, à un moment ou à un autre, tu peux être deuxième du championnat. Et ensuite, t'as ta génération du centre de formation qui va intégrer cette équipe première. T'auras des Minots, t'auras plus de Camara, t'auras du Lopez, t'en auras plusieurs des comme ça. Et là, tu auras en plus ça des Marseillais qui vont vraiment s'identifier à cette équipe.
Hervé, combien d'heures d'avion pour rentrer?
Je pars jeudi 21h20, j'arrive à Auckland 16h30.
Ça le direct?
Non.
Là, ça va être 40 heures avec l'escale. Et puis, en gros, 2 fois 12 heures d'avion.
Bon, d'ici là, peut-être que Marseille aura recruté un joueur.
Mais c'était faut le prendre au troisième degré parce qu'il y avait une question moyenne sur le Moscato il y a quelques semaines qui disait est-ce que les Marseillais à choisir prendraient Aulas comme président et je crois que c'était 75% qui disaient oui quoi. Donc c'est pour vous dire
façon,
à quel point je pense que les Marseillais sont lucides et désabusés.
Hervé, Aulas c'est un peu comme Sergio Ramos ou Pep le défenseur portugais. Ouais. Quand il est dans l'équipe adverse, tu le détestes, mais quand il est chez toi, t'es très content. Hein.
C'est ça, on est content de l'avoir. Ouais. Et bon, avec tous les défauts de Aulas, mais au moins il a le club dans la peau. Et avec tous ses défauts.
Après, moi je comprends pas quand même.
C'est clair, tu dois faire hurler des supporters marseillais parce qu'il y en a beaucoup qui détestent cordialement Aulas, hein, parce que les rapports entre Lyon et Marseille sont.
Mais si on oublie un peu Aulas, c'est Hervé. Moi je comprends. Marc Courte, c'est pareil. J'ai parlé de Jacques Henri Hérault. Mais Marc Courte, il investit de l'argent, beaucoup d'argent.
Ouais.
Mais comment il se. Normalement, avant d'investir, ce genre de personnes, ils font quand même un audit, ils se renseignent, ils prennent des informations. Marseille, quand même, on sait quels profils ont réussi et n'ont pas réussi. Bernard Tapie, Pape Diouf.
Ouais.
Et en face, on m'oppose Jacques-Henri Hérault. Ouais. Mais c'est comme si tu m'opposais Auckland et Paris, quoi. C'est aux deux antipodes. Il y a rien qui ressemble. Alors, je comprends vraiment pas comment McCourt a fait le choix de cette personne pour diriger l'OM.
Il est sûrement. Tu crois qu'il y a autant de trottinettes à Auckland qu'à Paris?
I don't know. Ouais, malheureusement.
Mais, non, mais tu vois ce que je veux dire, Hervé? Je comprends pas comment McCourt a choisi cet homme-là. Ou alors, si c'est un bon gestionnaire qu'il le mette dans les coulisses en tant que directeur administratif, mais sûrement pas en première ligne à faire des annonces de tirs en dehors de la surface de réparation.
Il avait on va dire, le format. À mon avis, assez pro, il devait bien parler anglais, il devait bien la présenter, il l'a eu comme ça, je pense. Hein. Et après, McCourt, il n'a pas une grande notion aussi, une grande connaissance du football européen.
Sinon, il n'aurait pas investi son argent dans le football.
Ouais. D'ailleurs, dans l'interview, là, ils sont parlé par quatre chemins. Il lui a dit bah, est-ce que ça vous dérange quand on vous dit que vous y connaissez rien au foot? Bon, il se défend un peu mollement, Jacques-Henri Hérault. Hervé, merci en tout cas, bon retour.
Comme d'habitude, avec ta générosité, si je pouvais avoir en tant que premier passage à l'after un t-shirt.
Ah bah évidemment. On va t'en envoyer un.
Il partira directement en Nouvelle-Zélande, donc il sera bien représenté là-bas.
Ah ouais, bah après faut le temps qu'il arrive à Auckland. Hein.
Ça ira droit pour l'été, ça sera parfait.
Voilà. Salut Hervé.
Allez, bonne soirée.
À bientôt, salut. Bonne soirée.
Salut Hervé.
Avant d'accueillir Arthur au 32-16, juste un mot sur donc Nasser Larguet. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Wavre, il me semble, c'est ça.
Wavre, ouais. Il était à Caen, il a été aussi bossé que la fédé marocaine. Jacques-Henri Hérault dit voilà, il a un CV incroyable, tout le monde me l'a recommandé, donc. Ça semble être, il le présente quasiment comme l'homme providentiel. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré, mais
après, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est précédé d'une très bonne réputation. Hein. Il a sorti
c'est
de
nombreux
joueurs.
C'est pas la garantie qui t'amène 10 super bons joueurs en 3 ans, quoi.
Non, mais après quand même, le centre de formation de l'OM, que ce soit pas un des meilleurs en France, ok. Mais il y a quand même une équipe de jeunes de l'OM, je me rappelle, il y a 2 ou 3 saisons, qui a été en finale du championnat de France U17, je crois, c'était contre le Paris Saint-Germain d'ailleurs. Enfin, je me rappelle pas exactement de l'année, pour être honnête, mais il y a quand même des joueurs dans ce centre de formation. Camara, Lopez. Dans n'importe quel centre de formation, il y a des joueurs qui peuvent avoir un jour le talent pour au moins intégrer le groupe de l'équipe première, et ensuite c'est aussi à l'entraîneur de l'équipe première de les faire progresser, parce qu'il n'y a pas que des phénomènes dans les centres de formation qui sont dès l'âge de 13 ans qu'on voit comme la future star de l'équipe première. Donc c'est pas forcément le gros enfin c'est peut-être un problème, mais il n'y a pas que ça.
Arthur au 32-16 est là. Salut Arthur.
Oui, bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Bonsoir. Salut Arthur. Qu'est-ce que tu dis toi des déclarations du jour du président de l'OM?
Déjà, il fait comme d'habitude, il reste dans sa communication, on n'apprend rien de plus, surtout que, par exemple, quand il fait allusion à l'urgentiste, si je ne me trompe pas, en disant que, c'était quoi déjà, que quand l'OM gagne, je crois, le dimanche soir...
Oui, il dit, voilà, il y a un urgentiste qui lui a dit que quand l'OM perdait, il y avait plus de monde aux urgences.
Ouais, voilà, et que si on comprend pas ça, on comprend pas l'OM. Mais bon, là, on a vraiment l'impression que c'est vraiment lui qui a pas compris l'OM, quoi, qui a pas compris l'esprit du club et vraiment l'attente des supporters, quoi.
C'est ça, moi, je vois mal attendre 2 ans et sans que le vélodrome, en fait, n'explose pas. Si
oui, c'est vrai que c'est contradictoire.
Ça risque d'être compliqué pour vous, les supporters, de patienter pendant 2 ans. Vous avez patienté cette année, vous sortiez d'une bonne saison l'année dernière. Voilà, il y a eu des choix, des tournants qui ont été mal négociés par le président. C'est toujours les présidents, en fait, quand ils sont pas dans le milieu du foot, lorsqu'ils arrivent en poste, ils pensent qu'ils vont révolutionner et amener leur idée, parce qu'ils comparent ça à une entreprise. Ça reste une entreprise, mais c'est différent. C'est du sport. Et en plus, t'es à Marseille. Il faut connaître.
Moi, je dis vraiment que, pour être président aujourd'hui, en 2019, pour être président d'un club de foot, peu importe le niveau même, il faut avoir eu une fonction dans le football. Que ce soit joueur, entraîneur, ça peut être comme avait été Pape Diouf, agent. Il faut connaître le milieu du football. Vous pouvez arriver et découvrir cette économie qui est aujourd'hui une industrie, qui a toutes ses spécificités et tout avoir à apprendre. Surtout pas quand c'est l'OM. Même si c'est un club de Ligue 2, difficile. Même si c'est un club de National, voire de Ligue. Mais alors, un club comme l'OM, mettre un novice dans ce milieu, c'est pas possible.
Non, mais tu vois, on comparait Olas. Bon, voilà, la rivalité Lyon-Marseille, on va pas la décrire, on la connaît. Mais Olas, si je me trompe pas, c'est Tapie qui lui a mis le pied à l'étrier dans le foot. Si je me trompe pas.
Oui, c'est Tapie qui, à l'époque, l'a poussé à reprendre l'OL qui était mal en point.
Ouais, voilà, donc on va dire c'est Tapie qui l'a mis à l'étrier.
C'était pas le même football, hein. C'était pas le même football à l'époque de Olas et Tapie, hein. Aujourd'hui, le football, c'est
Olas,
vraiment...
Olas, il a grandi avec ce
aujourd'hui,
foot.
Le football, voilà, c'est quasiment une technologie de pointe. Il faut vraiment en maîtriser tous les facteurs. Et même ceux qui en maîtrisent tous les facteurs, ils ont de grosses désillusions aussi. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pas la même époque.
Exactement. Hein. S'il reste président, il faudrait lui mettre en bras droit. Je sais pas, vous ne voulez pas nous prêter Dimeco, par exemple? Lui en bras droit, je pense que ça fait quelque chose.
Normalement, on lui a mis Anthony Zubizarreta comme bras droit. On est d'accord.
Mais il ne l'a pas écouté pendant 3 ans.
Voilà. Mais lui, il a préféré écouter Rudy Garcia.
Arthur, bon, en tout cas, les retours là, et les messages qu'on reçoit sur le hashtag RMC Live ou sur Direct Studio sont effectivement assez négatifs et pessimistes pour l'avenir immédiat de l'OM. Donc, c'est sûr, on va quand même suivre le mercato de près. On ne sait jamais si Zubizarreta trouve quelques petites pépites, comme peut le faire Campos à Lille, par exemple. Ça peut peut-être te donner une saison, parce que comme on le disait tout à l'heure, il reste quand même un effectif sympa à Marseille, malgré tout.
On se souvient que Olas, avec l'arrivée du nouveau stade, avait un peu arrêté cette politique de recruter des joueurs à prix assez cher et de miser sur son centre de formation. Le truc, c'est qu'il avait anticipé tout ça. C'est que sa formation était déjà bonne. Il savait qu'il allait avoir quelques difficultés pendant 3-4 ans pour le financement de ce stade. Il a serré la ceinture pendant 3 ans. Les jeunes sont arrivés et ensuite, ils ont intégré cette équipe première et les résultats sont revenus. Donc... pourquoi pas prendre en exemple ce qui se fait de bien ailleurs, même si Olas ne fait pas tout bien et que parfois...
Oui, si Lyon est un peu l'ennemi de Marseille depuis quelques années.
Mais prenons en exemple fait avant.
Oui, mais c'est pas dans ce sens-là, en fait, qu'il faut faire. C'est-à-dire que Lyon a utilisé son centre de formation, a développé son centre de formation pendant les années où ils ont été champions de France.
Exactement.
Où ils gagnaient tout, où ils avaient beaucoup d'argent, beaucoup de renommée. Ils ont attiré des joueurs, des jeunes joueurs, des familles qui n'avaient pas forcément envie à la base de jouer pour l'Olympique Lyonnais. Ils ont développé leur marque. Mais aujourd'hui, la marque du centre de formation de l'OM, un joueur qui doit choisir entre Lyon et l'OM, il signe les yeux fermés à Lyon. Donc, on peut pas miser là-dessus aujourd'hui. Qu'il faille travailler et qu'il faille recruter ce directeur du centre de formation s'il a des qualités, tant mieux. Mais on peut pas dire aux supporters, on va baser notre politique à partir de maintenant et pendant 2-3 ans sur ça. C'est pas possible. Que l'OM joue les premiers rôles, joue la Ligue des Champions, joue l'Europa League à fond, finisse dans le top 3 pendant 4-5 ans et en profite pour développer son centre de formation, là c'est audible. Mais de dire aujourd'hui du jour au lendemain, on sera plus l'OM, mais on sera un club qui mise tout sur la formation, c'est pas possible.
Dans quelques instants, on est de retour pour l'actu mercato. Arthur, merci beaucoup. À bientôt dans l'after. Arthur, salut.
Salut.
Merci à vous. Salut,
bonne soirée. Bon, j'ai tous nos auditeurs australiens, calédoniens et tahitiens qui veulent des t-shirts aussi. Du coup, là, Vincent, il me dit ouais, moi je suis pas loin de la Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, je veux aussi un t-shirt.
Faire un envoi groupé, ça coûtera moins cher.
On a quelques amis de Brisbane qui nous écoutent.
Il y a pas
aussi.
Un point relais là-bas au milieu du Pacifique.
On va peut-être s'organiser. Ouais. Après, faut aller au point relais. C'est-à-dire que si t'habites 4000 bornes, c'est pas bon. Allez, dans quelques instants, toute l'actu mercato dans l'after, bien sûr. Bougez pas, on revient tout de suite.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Kevin Diaz est là, Damien Perinel est là. Attention, mercato, tout de suite. Jingle.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le manger. Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Mercato en France d'abord. Monaco officialise le prêt du latéral gauche Antonio Barreca au Genoa. Donc hop, un mec de moins à Monaco. Il s'était parti à 75. Je sais pas à combien ils sont là. On n'a pas fait les comptes très précis.
Lui c'est un flop quand même.
Oui.
Ce joueur qui est arrivé comme.
Il est prêté. Hein, donc c'est un jeune. Il reviendra. On verra si ça va le faire. Au niveau mercato, un mot sur Rami quand même, parce que Jacques Henriero en parle dans son interview. Il dit Rami de s'interroger profondément sur son métier de footballeur professionnel.
Bon. Oh, ça c'est profond.
Petit taquet quand même.
Donc on ne connaît pas toujours les causes exactes de la.
Non, mais en gros, gros salaire, donc ils veulent tout faire pour le dégager. En gros, faut pas chercher.
Mais il faut une raison pour ça, ce que je veux dire.
Ah oui, donc là, on a trouvé une raison, parce qu'un jour, il était allé à Fort Boyard sans prévenir. Bon, bah. Voilà, c'est ça. Hein.
Rami dans le loft, ça pourrait avoir la gueule.
Alors, tiens, j'ai quelques infos également à vous donner concernant. Alors, j'ai du Dijon, j'ai du Lille. Alors, je vais vous dire voilà, tout comme dans l'ordre où ça arrive. Lille s'intéresse de près à Reine Adélaïde, le joueur d'Angers. Alors, vous savez qu'ils suivent un joueur de Trabzonspor, qui est un espoir du foot européen, qui s'appelle Youssouf Yazici. Mais Trabzonspor est très gourmand, ils veulent 20 millions d'euros. Donc, pour l'instant, Lille ne veut pas payer ce prix-là. Donc en parallèle, il s'intéresse à Reine Adélaïde, si jamais ils n'arrivent pas à faire venir ce joueur-là. Reine Adélaïde qui a sa petite cote, qui fait une bonne saison avec Angers.
Ouais, voilà. Je crois qu'il l'estime aux alentours du même prix, hein, 20 millions.
Lille a proposé 12.
Et Angers en veut 20.
Donc ça négocie. À suivre. Léa Siliki, lui le Rennais, pourrait partir au Celtic Glasgow. Alors Porto s'intéresse à Léa Siliki, mais celle le Celtic aussi. Donc un joueur convoité. Léa Siliki.
Bon, en termes de progression, le Celtic, je suis ouais. Pas sûr, je sais pas.
C'est après, un peut-être peu... en termes de salaire par rapport à Rennes.
Voilà, mais Porto, c'est quand même autre chose. Quoi.
Soit dans l'un ou des autres clubs. C'est des clubs qui, ça va plaire à Gilbert, ont le même profil.
Porto et le Celtic ?
Bah, bien sûr. C'est deux clubs qui sont...
Bah, à choisir, c'est mieux de la Porto, non ?
Porto niveau foot.
Ah bah, ouais.
C'est pas à moi que tu vas dire que je préférais aller à Porto qu'au Celtic, mais c'est quand même le Celtic, c'est aussi un très beau club pour jouer.
Bah, c'est un beau club. Aujourd'hui, c'est pas performant le Celtic par rapport à Porto.
En plus, on peut dire qu'on
peut jouer à la Ligue des Champions tous les ans.
Jouer à Celtic Park, quand même, c'est quelque chose.
Ah, mais d'accord.
Non, mais le stade de Dragão.
De Dragão.
C'est autre chose quand même.
Non, non, moi, c'est plaisir, ta main.
Voilà, c'est-à-dire que tu joues dans un championnat, t'as Benfica, tu es en Champions League tous les ans.
Enfin, moi, je ne vais pas conseiller Léa Siliki, mais à choisir, on lui conseillerait Porto. Et j'ai des nouvelles à vous donner de Néné. Eh oui, il joue encore au foot, Néné, hein, 37 ans, plus vieux que Kevin Diaz, 14e club professionnel, et il va jouer à Fluminense.
Mon sosie officiel, on me l'a dit.
Non. Ton sosie, c'est Luis Rego.
Oui, c'est vrai.
Dans les bronzés. Et les assurances, c'est quoi, Nez ?
D'ailleurs, c'est le même.
Tu valides?
Je valide. Dans les bronzés.
Bon, je préfère le pied gauche de Néné, mais bon.
Ah bah oui, non mais ok. Alors là, il était à Sao Paulo et donc il va aller à Rio pour jouer.
Il a fait Vasco de Gama, Sao Paulo, Fluminense.
Et il lâche rien, hein, le garçon. Il aime le foot. Hein.
Ouais. Et il est affûté.
C'est bien.
Il est affûté.
Pogba. Manchester fait savoir qu'il n'y a aujourd'hui aucune offre pour Pogba. Ils n'ont rien reçu. Non, il n'y a pas d'offre. Alors les agents parlent. C'est Mino Raiola qui parle. Hein. Les agents parlent, mais ils parlent tout le temps, dit Solskjaer, mais il n'y a rien.
Non, mais surtout quand il parle, on comprend rien ce qu'il dit son agent. Et il a fait une déclaration hier, mais c'est-à-dire que c'est inaudible. Quoi. Ça n'a aucun sens. On comprend rien.
Bah voilà, c'est Raiola. Hein. Je n'ai pas surpris.
Mais quand tu vois que Manchester est capable de dépenser autant d'argent sur un latéral droit.
D'ailleurs, c'est ce que dit Solskjaer. Solskjaer, il dit nous, on est Manchester United, on n'a pas besoin de vendre. Et en gros, de toute façon, on est assez riche, on peut se permettre de ne pas vendre.
Le latéral droit dont tu parles, celui qui était à Crystal Palace, qu'on a vu aussi régulièrement sur les antennes d'RMC Sport avec la Première Ligue. Franchement, c'est pas exceptionnel. Hein. Pour le prix qu'ils l'ont payé.
Même c'est surpayé déjà parce que c'est un défenseur anglais. Ouais. Et quand c'est un défenseur anglais entre deux clubs anglais, ils surpayent déjà. Ouais.
Non mais c'est... Je comprends pas Manchester.
D'ailleurs, 23h52, on peut officiellement l'annoncer. On a enfin un jingle Kevin Diaz. Tu veux l'écouter? C'est reggae.
Et en fait, tous les jingles de l'avenir, c'est les bronzés ou Christian Clavier.
Ah bah non, mais c'est culte, évidemment. Info PSG. Alors, vous savez que Antero Henrique est parti, mais il avait quand même tissé sa petite toile, évidemment. Il y avait plein d'hommes à lui un peu partout. Donc, ils vont progressivement tous aussi se barrer. Et les deux prochains, là, c'est Texera et Noga. Texera, donc, bras droit d'Antero Henrique, devrait quitter le club à la fin de la semaine, tout comme Noga. Donc, ils viennent plus au club ni au camp des loges. Donc, en gros, voilà, c'est, ils étaient dans l'entourage du directeur sportif.
Ce qui est incroyable avec le PSG et cette direction, c'est que c'est depuis, on n'a jamais aussi bien parlé de Antero Henrique que depuis qu'il est parti de ce club. Alors, c'est lui qui avait bien travaillé sur le dossier Herrera, c'est lui qui avait bien travaillé sur celui-ci et celui-ci. Et pour l'instant, c'est Leonardo qui récolte un peu les fruits d'Antero Henrique. Bah oui. Mais
c'est le jeu.
C'est incroyable.
Supporters dijonnais, j'ai les infos pour vous. Sachez, puisque Jobard, le nouvel entraîneur, s'est exprimé, que Wesley Saïd pourrait ne pas rester, mais ça discute. Alors, il est pas mal convoité, Wesley Saïd, Montpellier, Toulouse. Donc Jobard dit Dijon peut lui offrir un climat propice à son épanouissement, mais on peut comprendre ses envies, dit-on à Dijon.
Ça fait un moment qu'il est à Dijon. Après, je pense que pour lui, pour sa carrière, ce serait pas mal de changer d'air, de se trouver un nouveau challenge, de se mettre un peu en danger. Et c'est comme ça qu'on peut progresser le mieux.
On cherche également un gardien à Dijon et on parle de Paul Nardi. Et Jobard dit voilà, il fait partie des pistes explorées, effectivement. Nardi, donc, voilà. C'est vrai qu'il y a ce gardien islandais, là, Runarsson, pas très bon Runarsson.
Ouais, qui n'était pas exceptionnel, mais Nardi, qui est à Nancy, il me semble, ensuite qui est passé par Monaco et prêté
à Bruges, au
cercle de Bruges. C'est un joueur qui était même en équipe de France Espoir ou U21, je sais plus trop, mais qui avait un potentiel exceptionnel, qui s'est un peu perdu malheureusement en Belgique. S'il peut rebondir en Ligue 1, ce serait une bonne nouvelle pour lui et pour Dijon.
Au rayon Mercato aussi, une info importante à Nîmes, Laurent Boissier démissionne. Alors, c'était un des piliers de Nîmes. Nîmes Olympique, il y avait le coach et lui, c'était quand même les deux gars vraiment qui faisaient le club quoi, hein, au quotidien. Le président Assaf n'est pas hyper présent au quotidien. Et là, c'est un coup dur, on est en plein mercato, donc le directeur sportif de Nîmes qui s'en va, va falloir le remplacer. Hein.
Mais il s'en va pour un autre club ou c'est...
Là, on sait qui s'en va, voilà. Mais on n'en sait pas plus sur un éventuel rebond ailleurs.
Parce que si c'est un problème interne qui aurait déclenché son départ, là, en effet, c'est un gros problème quand même pour le Nîmes Olympique. Maintenant, si c'est pour être, c'est parce qu'il a été démarché par un autre club, là, c'est la loi du mercato, on va dire. Mais
ouais, c'est un timing un peu curieux.
Ouais.
Voilà pour le mercato. J'ai deux, trois petites infos encore. Oui, vous dire que Donnarumma veut rester à Milan, ça c'est encore du mercato. Bon, enfin bon, après, entre un mec qui veut rester et puis un club qui veut vendre.
Sachant que son agence est Raiola.
Par ailleurs. Militao, le pauvre, qui a fait un petit malaise lors de sa présentation au Real. Quand tu passes au Real, là, tout de suite,
Pourtant, ouais, ils viennent
du coup de chaud, quoi.
Ils ont arrêté la conférence de presse, hein, c'est ça. Ouais. On voyait qu'il était,
il était pas
au top.
Et puis pour revenir au PSG, j'avais oublié de donner cette info. Officialisation aujourd'hui du départ de Thiago Motta. Donc il a quand même discuté avec Leonardo, mais bon voilà, ça l'a pas fait.
Ouais, bah grosse, enfin perte. Après, Thiago Motta est arrivé sous Antero Henrique, même si on sait que ça, il y avait de la friture sur la ligne entre les deux. On aurait pu penser que Leonardo pouvait rétablir la situation, mais je pense surtout que Thiago Motta a d'autres ambitions. Il va passer son diplôme en Italie, il me semble. Il voulait se consacrer pleinement à ça et il va revenir très certainement avec une équipe professionnelle dans les prochaines années.
Par ailleurs, Neymar s'est expliqué avec Leonardo au téléphone. C'est la petite info du jour. On a longuement parlé de Neymar dans l'after ces deux derniers jours. Allez voir la vidéo de Neymar qui fait du foot volley aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a quand même un peu de technique, malgré tout.
Hein, je ne pense pas que ça a vraiment plu aux supporters parisiens, si j'ai bien compris.
Mais la vidéo, quand même, est assez impressionnante.
C'est Joga Bonito.
Exactement. L'équipe américaine de foot, l'équipe féminine, n'ira pas à la Maison-Blanche. C'est Rapinoe, la capitaine, qui l'a dit aujourd'hui. Donc, elle l'avait annoncé. Alors, je sais pas, il y a peut-être des filles parmi les 23 qui voulaient y aller, mais là, elle a dit non, on n'ira pas. Bon, elle décide peut-être pour tout le monde, je ne sais pas. Enfin, c'est la déclaration du jour. Et puis, à Milan, projet de nouveau stade. Le Milan et l'Inter sont d'accord pour proposer la construction d'un nouveau stade à côté de San Siro, voilà, qu'on juge désormais obsolète à Milan. Alors, est-ce que la municipalité va suivre et tout? Mais voilà, il y a un nouveau projet de stade à Milan. C'est vrai qu'en Italie, c'est un peu compliqué.
Nous qui sommes des romantiques du football à l'after, on aimerait que le Milan et l'Inter jouent toujours à San Siro éternellement. On aimerait que la Juve ait un maillot rayé, que le Barça n'ait pas un maillot à damier.
Ah, c'est plus le cas non plus cette année.
Voilà, c'est ce qu'on aimerait, mais bon.
Bon. C'est chiant pour tous les centres de soccer qui vont devoir changer leur nom de leur petit terrain. Ah, t'as toujours un Bernabeu, un San Siro, un Parc des Princes.
Un stade de la Méno.
Ouais. Peut-être. C'est plus en Alsace alors.
Schiltigheim. Tu rigoles quoi. Et puis tiens, Piqué, vous savez que Piqué, homme d'affaires toujours avisé. Bon bah là, il s'est quand même pris 2 millions de redressement par fisc espagnol, puisqu'il a légèrement oublié de déclarer quelques revenus. Donc voilà, 2,1 millions d'euros d'amende, de remboursement à faire au fisc pour.
Bah, pour lui, ça c'est 3 mois de boulot.
Ouais, c'est ça. Un billet de 20 euros.
Demain soir, messieurs, vous êtes de retour. Alors demain, même schéma, 21h, Tunisie-Madagascar. On aura des supporters avec nous. Puis ensuite, l'after jusqu'à minuit, bien sûr. Damien, merci. Kevin, merci. Bip, bip. Et à demain, les gars. Bonne nuit à tous.
Salut.
RMC. L'after foot.